Lendemain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 19 octobre, séance houleuse. Hier, à la métropole de Lyon, Andrea Cotarac menacé, il va porter plainte après des menaces de décapitation. L'élu RN demande à être mis sous protection. Une vingtaine de personnels paramédicaux ont manifesté hier devant l'hôpital Lyon-Sud pour alerter sur les conditions de soins en constante dégradation. Le lancement au collège Jean Monnet du prix Samuel Paty. Une semaine de l'hospitalité, l'opération dure 10 jours, après un lancement chahuté par des collectifs. Place aux actions, ateliers, plénières, expositions, visites ou débats. Dans cette édition, nous découvrirons le château, l'ancienne résidence pour personnes âgées Château-Gaillard, qui devient un lieu d'habitation et d'innovation sociale. L'opération doit durer 5 ans. Reportage complet dans cette édition.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La commission permanente de la métropole se réunissait hier pour la première fois en présentiel. Les élus d'opposition, tous groupes confondus, ont demandé une suspension de séance. Bruno Bernard, le président du Grand Lyon, aurait déclaré « Je ne traite pas avec les conseillers métropolitains d'opposition. Vous avez l'air de ne pas comprendre. » L'opposition a dénoncé un comportement hautain et extrêmement méprisant. David Kimmelfeld du groupe Les Progressistes parle d'humiliation des conseillers métropolitains. Les relations sont tendues depuis plusieurs semaines. Après la publication d'une tribune d'une quarantaine de maires de la métropole dénonçant la gouvernance de la nouvelle collectivité. Ils sont en permanence dans la polémique, ce n'est pas à la hauteur des enjeux, ils n'ont aucune proposition, a répondu Bruno Bernard, affirmant vouloir parler directement aux maires et non à l'opposition métropolitaine. Bruno Bernard précise qu'il va organiser d'ailleurs une conférence métropolitaine des maires au mois de novembre. Andrea Cotarac a interpellé le préfet et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et demande à être mis sous protection. L'élu RN va porter plainte après des menaces de décapitation. Une vingtaine de personnels paramédicaux, infirmiers, aides-soignants, des gens de nuit essentiellement et travaillant dans les hôpitaux Lyon-Sud et Henri-Gabriel se sont rassemblés à l'appel de la CGT hier après-midi devant la direction de Lyon-Sud pour diffuser une lettre ouverte alertant sur les conditions de soins en constante dégradation. La direction des HCL indique que 70 lits sont actuellement gelés sur Lyon-Sud et 11 sur Henri-Gabriel, faute de personnel. Tous les établissements de santé publique et privés font face à une pénurie d'infirmiers et d'aides-soignants depuis cet été. C'est au collège Jean Monnet, en Presqu'Île, qu'a été lancé le prix Samuel Paty. L'association des professeurs d'histoire géo a créé en effet un prix pour rendre hommage à l'enseignant assassiné par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020, il y a tout juste un an, à la sortie de son collège de Conflans-Sainte-Honorine. Le prix a été officiellement lancé à Lyon, Académie de formation de Samuel Paty. Le prix Samuel Paty s'adresse aux élèves de 6e, 5e et 4e. Il est adossé au programme d'éducation morale et civique. Le thème retenu pour cette première édition, sommes-nous toujours libre de nous exprimer. L'objectif est de fédérer professeurs et élèves, mais aussi les surveillants, les AESH et les différents membres des équipes administratives. L'inscription s'effectue par mail prixsamuelpaty@gmail.com et puis tous les renseignements sur www.aphg.fr.
Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde.
Une semaine de l'hospitalité. L'opération dure 10 jours à l'initiative de l'État et de 3 collectivités locales, les villes de Lyon et Villeurbanne et la métropole. Ateliers, plénières, causeries, expositions, visites ou débats. Il s'agit de mettre en lumière quelques dispositifs destinés à lutter contre le sans-abrisme. C'est à Villeurbanne, dans une ancienne résidence pour personnes âgées, transformée en lieu d'habitation et d'innovation sociale, que cette semaine de l'hospitalité a été lancée. Un pareil risqué pour des collectivités dans la ligne de mire de certains collectifs, peu enclins à se satisfaire des propositions mise en œuvre depuis l'arrivée des écologistes aux manettes de la ville de Lyon et du Grand Lyon. Quelques dizaines de manifestants ont donc directement interpellé Bruno Bernard, Grégory Doucet et Cédric Van Stevendel avec des pancartes comme « La métropole de Lyon engagée pour expulser » ou encore « Expulsion, c'est ça, leur hospitalité ?» Les élus ont observé la scène, jugeant cette manifestation prévisible et réaffirmant leur politique en matière de précarité. Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne.
On a été interpellé pendant cette présentation par un collectif qui s'insurge contre les évacuations de squats et qui indique qu'il y aurait des évacuations qui sont illégales. Moi, je ne suis pas juge. Je veux dire, ces collectifs, comme ils ont la possibilité de venir perturber ce moment, ils ont la possibilité de saisir un juge pour dire le droit. Moi, il ne me revient pas en homme politique à dire le droit. Je veux que le droit soit respecté. Je veux que les droits de celles et ceux qui sont dans des squats soient respectés, mais je veux aussi que le droit de la propriété soit respecté. Moi, je suis un puriste là-dessus, et donc il leur appartient de saisir saisir les instances nécessaires pour faire valoir leur point de vue. Et j'ai entendu ces critiques, j'ai entendu ces interpellations qui nous sont faites. On nous a dit, vous savez, c'est risqué de se saisir du sujet de l'hospitalité. Mais on n'est pas venu en politique pour pas prendre de risques. Ceux qui veulent pas prendre de risques, ils viennent pas faire de la politique. Ceux qui veulent faire de la politique, c'est ceux qui veulent changer les choses, en fait. Ben moi, je crois qu'avec un engagement très volontariste du président de la métropole, du maire de Lyon, du maire de Villeurbanne, du préfet de région, autour de la question du sans-abrisme, c'est peut-être prendre des risques, mais en tout cas, ça répond à l'idée que je me fais de mon engagement politique. Et moi, ça m'intéresse de prendre des engagements sur la réduction du sans-abrisme. Et j'accepte, à ce titre, en prenant ce risque-là, que certains m'interpellent en disant que ça va pas assez vite. Mais moi, je regarde aussi ce que je fais. En un an, plus de 300 places ont été ouvertes à Villeurbanne. Et donc, je considère que j'ai déjà un bilan qui me permet de dire quelque chose.
L'ancienne résidence pour personnes âgées, Château Gaillard, devient le château pour une durée de 5 ans. Les seigneurs ont investi des locaux flambant neufs et laissent donc derrière eux 6 bâtiments sur lesquels vont s'implanter différents acteurs. Les explications de Méline Revelin, chef de projet pour le GIE La Ville Autrement.
Alors le château, c'est une occupation temporaire sur une durée de 5 ans qui a vocation à, en premier lieu, lutter contre le sans-abrisme sans faire de la mise à l'abri. L'objet de l'occupation, c'est de donner accès à un logement à environ entre 170 et 180 personnes d'ici fin décembre, avec un travail partenarial fort avec les associations Alinea, Acolea, From Réfugiés Cosy et également l'ASVEL VBF.
Quel type de public sera accueilli ici?
Le point commun de tous les publics, c'est que c'est des personnes qui n'avaient pas jusqu'à présent de logement.
Alors l'idée, c'est de leur offrir non pas un hébergement, on l'a compris, mais un logement, la nuance,
c'est pas la démarche en escalier à faire ses preuves jusqu'à avoir les clés de son logement. Là, vraiment, on a les clés de son logement, on en dispose, on peut fermer la porte. Il n'y a normalement pas de collectif qui doit s'imposer à nous. Mais par contre, l'avantage, parce que ce qu'on peut remarquer, c'est que sur certains publics, dans le cadre des politiques logement d'abord, on va être confronté à une sorte d'isolement de certains publics. Ici, le collectif ne sera pas une injonction, mais sera une proposition. Ce qu'on souhaite aussi, c'est que les personnes, si elles peuvent se maintenir et qu'elles le souhaitent, au-delà du dispositif par lequel elles sont arrivées ici, elles puissent se maintenir sur le lieu, bien entendu, le temps de l'occupation temporaire.
Au château, 139 appartements répartis en 7 allées, mais aussi des lieux collectifs pour une vie commune. Étienne Fabrice, responsable mobilité résidentielle au GIE La Ville Autrement.
Ici, on est dans un appartement qui va servir un des 4 projets de l'occupation temporaire du château. En l'occurrence, ce qui s'appelle la halte des femmes, donc qui a vocation à accueillir des femmes qui soit sortent de maternité, soit vont aller à la maternité et qui se trouvent sans domicile. Et donc, elles vont pouvoir intégrer ces logements avec des espaces collectifs et des activités qui leur seront dédiées.
C'est quoi la mission de cet ensemble, qui est une ancienne maison de retraite, hein ?
Oui, c'était effectivement une ancienne résidence pour personnes âgées, pour laquelle il n'était pas possible de maintenir les personnes âgées sur cette résidence parce que, en termes de sécurité incendie ou d'adaptation des logements, les travaux étaient trop conséquents. Donc, une nouvelle résidence a été construite par S-Métropole Habitat à proximité immédiate de ce site-là. Et donc, il y avait ces résidences qui étaient ces bâtiments qui étaient occupés, donc qui regroupent 7 allées avec 140 logements et qui étaient... alors, il y a besoin de faire des travaux de sécurité et de mise aux normes, mais par contre, il y avait une installation rapide possible et donc une vraie volonté de répondre à des situations de personnes sans domicile et donc à travers 3 projets associatifs qui seront présents sur ce site.
Alors, quelles sont les conditions pour arriver ici? Comment on arrive dans ces appartements?
Alors, en fait, on travaille dans le cadre d'un partenariat avec la métropole, la ville de Villeurbanne et les services de l'État. Et donc, chacun des projets, en fait, les associations vont être financées soit par la métropole, soit par l'État. L'effort de la collectivité étant de mettre à disposition le foncier, et c'est pas un mince effort. Et donc, les ménages qui vont être orientés auprès des associations vont l'être par le biais de l'État et de la métropole, notamment à travers la maison de la veille sociale.
L'idée, c'est de ne pas faire de l'hébergement d'urgence, comme on connaît sur d'autres sites. Hein.
Effectivement, l'idée, en tout cas, on a essayé de développer un projet où les personnes sont chez elles, sur une durée longue d'occupation, puisque on a la chance de pouvoir bénéficier d'une convention d'occupation temporaire qui dure jusqu'à fin 2025. La ville n'a pas souhaité s'engager au-delà du mandat pour lequel l'équipe actuelle a été élue. Mais jusqu'à fin 2025, les personnes vont pouvoir habiter ce site et disposer de leurs clés. Donc pour nous, c'est un renversement qui est important, puisqu'on va vraiment pouvoir, les personnes vont être chez elles, s'inscrire dans la durée et occuper ce lieu pleinement et entièrement, y compris pour y développer des activités et y compris en lien avec l'environnement immédiat. L'idée étant, et l'objectif que l'on poursuit étant, que les personnes qui seront habitantes du site soient aussi ressources dans le quartier et ne représentent pas, soient pas vues comme une contrainte, mais qu'on arrive à dépasser ça.
Parmi les associations qui vont œuvrer sur place, Forum Réfugiés COSY, pour accompagner 50 demandeurs d'asile, hommes, femmes ou familles, certains bénéficiaires seront transférés d'une autre résidence qui doit faire l'objet de travaux. Jean-François Ploquin, directeur général de Forum Réfugiés, insiste sur l'intégration du château dans son environnement immédiat.
Dans l'accueil des populations les plus précaires, on est souvent dans des conditions un peu à minima, enfin des budgets un peu à minima, etc. Bon. Et là, on sent qu'on a l'occasion de porter un projet qui a une autre dimension. Il y a les fils de la Svelte qui sont là, on est sur un site où il y a des arbres. Et puis, cette dimension d'ouverture au quartier, elle nous paraît, parce qu'il y a des riverains qui sont concernés, qui ont le droit de poser des questions, d'être un peu inquiets ou d'être très enthousiastes, enfin ça dépend. Et ça aussi, ça nous plaît bien. Parce que les gens qui demandent l'asile, une proportion d'entre eux sera reconnue réfugiée, c'est-à-dire que leur nouveau pays, ça va être la France. Et donc, vous voyez, par rapport à une habitude qui est celle de... C'est des gens, ils arrivent, ils demandent l'asile, ils vont à la plateforme d'accueil où on ne peut pas les héberger, on leur dit allez voir la préfecture, on leur dit écoutez, si on a une place, on vous écrira, puis on leur dit bah, allez au centre de transit, et puis après allez à l'UFI, puis après allez ici, puis après bon. Et là, on se dit, dans la durée, on va pouvoir permettre à des gens de se poser, pourquoi pas de s'enraciner, d'habiter leur logement, et donc c'est chouette, quoi. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est cette approche pluri-associative, ça veut dire qu'on va mettre en commun des moyens. Il y a aussi des économies d'échelle. Si je me parlais de l'argent du contribuable, on fait des économies d'échelle, des synergies. Et puis, entre le dedans de cette petite enclave Château-Gaillard, là, et puis l'extérieur, ça va jouer.
Ce type d'échange, il peut y avoir avec les riverains qui, souvent, dans ce type de projet, sont là plutôt à l'affût et à s'inquiéter.
Très souvent, ce qu'on voit, c'est des personnes qui se proposent pour une activité bénévole, qui nous disent bah voilà, j'étais prof, je peux donner des cours de français, je me débrouille pas mal aux échecs, je pourrais faire un petit club, je pourrais aider les gens à découvrir le quartier, les marchés, etc. Donc il y a toute cette offre qui fait du lien aussi, qui fait du lien social. Ce qu'on découvre quand on rentre en relation avec des gens qui viennent de loin, parce que les réfugiés ils viennent d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, c'est qu'il y a un enrichissement réciproque. C'est-à-dire qu'il y a une première approche qui consiste à dire c'est des gens dans le besoin, c'est des gens qui ont besoin d'être assistés, faut les aider. Et après, on se rend compte qu'en vivant avec, on reçoit aussi beaucoup. On reçoit dans la culture, on reçoit en parlant cuisine, on reçoit en parlant des enfants, on reçoit en parlant... Donc, on sait qu'il va se tisser des relations humaines fortes entre les gens qui seront ici, qu'on accompagne, et puis des gens qui sont là. C'est l'histoire de Villeurbanne, ça. Des gens qui viennent d'ailleurs et puis qui font ville ensemble. Pour que ça matche, il faut se mettre à niveau d'humanité. Simplement, les yeux dans les yeux. Il faut accepter le risque de l'échange, du dialogue.
Le château est prévu pour durer 5 ans jusqu'en 2026. Une action sur la durée qui doit permettre une stabilisation des familles accueillies. Un mot de sport en rugby, le 15 de France. Le 5 majeur du Loup retenu en équipe de France. Demba Bamba, Kylian Geraci, Romain Taofi Fenaou, Dylan Cretin et Baptiste Couillou font partie de la liste des 42 joueurs sélectionnés par Fabien Galthié en équipe de France. Un sixième Lyonnais aurait dû participer à l'aventure, mais Pierre-Louis Barassi est victime d'une entorse à la cheville droite contre Perpignan le 18 septembre, est insuffisamment remis de sa blessure pour prétendre à l'équipe de France à court terme. Les 5 autres Lyonnais rejoindront donc Marcoussi dimanche prochain au lendemain du match face au Stade Français. Au pire des cas, ils manqueront les deux rencontres Montpellier-Loup et Loup-Castres. C'est la fin de ce quart d'heure Lyonnais, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez une excellente journée.